Merci Alain, merci à tous d'être là et merci de ton invitation. Quand j'ai reçu l'invitation, j'ai pas hésité longtemps sur le sujet car en 2014, la revue de Deux Mondes qui préparait un spécial sur l'Afrique pour le mois de septembre, donc 2014, m'a demandé un essai sur la femme africaine. Tout de suite, je me suis dit, voilà une opportunité pour chercher le pourquoi qui me taraudait depuis longtemps. Voilà une opportunité pour aller un coup. Et pour une fois, pas qu'en dans la salle de bain ou dans ma voiture. Qu'en voyez-vous? L'image caricaturale de la femme africaine ici me faisait parler toute seule, ce qui n'est pas un bon signe. Bref. Donc, avant de venir en France, j'étais tout simplement une femme. En arrivant ici, cela m'a pris quelques mois avant de comprendre qu'ici, je n'étais pas juste une femme, j'étais une femme africaine. Comme si on dit une femme européenne, on dit elle est russe, elle est polonaise, elle est anglaise, mais d'ici, une femme noire, c'est une femme africaine. Du Cap au Caire, c'est la même. Et cette femme africaine, donc il paraît que j'étais, je ne la connaissais pas. Je l'ai découverte ici. Et pour compliquer l'affaire, cette femme n'était pas toujours la même en fonction du sexe de la personne en face. En plus, comme j'aurais préféré avoir mal compris ce qu'on me disait, il m'a fallu bien longtemps avant d'accepter la réalité des choses. Pour les hommes, j'ai découvert que j'étais, entre autres, une chaude lapine, excusez-moi, mais c'était ça. Au début, je ne savais même pas ce que c'était. Une chaude lapine, donc vous comprenez, parce que je suis anglophone, donc mon français c'était un petit peu ok. Et j'étais une grande danseuse qui savait remuer son derrière et surtout qui revenait tout le temps une gazelle. Et ceci était toujours qualifié avec l'adjectif africaine, qui me laissait penser qu'il y avait des gazelles européennes, des gazelles asiatiques, et je ne sais pas, Antarctica. Aussi, cette femme africaine que j'étais supposée être était très active sexuellement. Au début, comme je ne comprenais pas tout ce qu'on me disait, mon français qui laissait beaucoup à désirer, j'ai caché mon confusion dans un sourire plus ou moins con, vous savez. Une tactique que j'ai utilisée quand je ne comprenais pas ce qu'on me disait et je ne pouvais plus conduire des pardons, qu'est-ce que vous avez dit, répéter. Mais cette astuce s'est révélée malheureusement préjudiciable à moi. Un exemple, c'est un lundi et j'arrive à l'école primaire pour déposer mes deux enfants. Il y a un monsieur, on va l'appeler monsieur Jaco, dont le travail est de balayer le cours intérieur et extérieur de l'école. Nos deux filles sont dans la même classe et nous habitons dans la même rue. Donc, des fois, les enfants rentrent ensemble. Donc, je lui dis bonjour et nous sommes en train d'échanger les banalités du lundi matin quand M. Dupont, parent et professeur de judo, arrive avec sa fille et sans crier guère, silence. Attention, ma gazelle! Et c'est la première fois qu'il m'adressait la parole. Ne te fais pas embobiner par ce magouilla de Jaco. C'est un bon à rien. Reste avec moi et tu iras loin. Moi, je t'amène au ciel. Et je parle du septième, t'as compris? Et moi, un peu déboussolé, je me mets mon déguisement de... du sourire à Béa parce que je ne comprends pas trop et je ne vais même pas comprendre ce qu'elle vient de dire parce que ce n'est pas possible. Donc je regarde un petit peu Béa comme ça et lui, il continue. Ah, l'allumeur, ce gars-là, il fait semblant de ne rien comprendre. mais je vous assure, c'est des choses à un magasin africain. Et tout ceci à haute voix, dans le parking juste devant l'école, et accompagné par des gestes très précis, en vue de tout le monde, et mes enfants et sa femme comprise. Notre conversation parlée avec M. Jacques s'arrêtait là, et il s'est mis à balayer vigoureusement, et moi, je me suis éclipsée dans ma voiture au plus vite, en colère contre moi-même, car je m'étais laissée faire, et avec honte, car je venais de jouer les complices. Et j'ai su que dorénavant, sa femme allait être son modèle parce qu'elle était là, elle n'a pas trouvé ça rigolo du tout. Donc là, on dit « Maman, au secours, je ne le connais même pas », et puis on se posait beaucoup de questions. Mais avec mon concert, il était guère mieux. Quand c'était positif, j'étais nounou ou femme de ménage. Oh, j'ai toujours rêvé d'avoir une nounou africaine pour mes filles et toi, Lucie. Oh, tu es toujours tellement souriante que j'aurais bien aimé t'avoir comme nounou. Je suis sûre que mes filles seront plus contentes avec toi. Quand j'ai mis une annonce pour une nounou, j'ai vu écrit « Madame Voula ». J'ai cru que c'était une Africaine, mais elle est française. C'est son mari qui est africain. Oh, je me suis fait avoir. Ou oh, « Ma copine cherche une femme de ménage, ça t'intéresse ?» Et puis, il y a des pseudo-intellectuels très experts autodéclarés des femmes africaines. Ceci pouvait être homme ou femme, et les méthodes pouvaient être, souvent sont très scientifiques. Comme le monsieur qui déclare au cours d'un dîner où on était invité, il a été prouvé que les Africains sont aussi intelligents que n'importe qui, n'est-ce pas, Lucie? J'étais la seule noire. Où il y a la gentille femme, il y a 10 ans, je faisais du volontariat donc chez Artisan du Monde, donc je tenais la boutique tous les mardis. Il y a une dame à la cinquantaine, assez babacool, souriante, qui rentre. Et tout de suite, elle me dit, « Oh, je suis ravie de vous voir, je viens de passer 15 jours en vacances avec des Burkinabés. Oh, je suis ravie de vous voir. » Et moi, je suis un peu surprise pourquoi elle est ravie, mais le client est toujours roi, donc j'ai fait la sourire. Maintenant, je connais les secrets des femmes africaines. Vous avez la chair assez faible, n'est-ce pas? Et les seins qui se tient à doigts. Ah bon? Je vous admire. Ça, alors, une femme blanche qui admire une femme noire, pourquoi pas? Je vous envie même, car vous ne montrez pas vos âges. Moi aussi, j'aimerais bien rester jeune. Bon, ok. Et puis, ça continue. Regarde-moi, regarde ma peau toute blanche, oh, toute fade. Et mes fesses, regarde-le, ça tombe. Pas comme chez vous. Je la regarde, mais dans ma tête défilent les tantes, les grandes-mères que je connaissais de chez moi, qui avait ce qu'on appelle en anglais des Michelin tires, les pneus Michelin, avec des seins qui tombaient sans soutien gauche jusqu'au genou. Bon, j'exagère un petit peu. Mais la dame insiste et ses mains sont plus en plus près de mes seins. Donc je recoule un petit peu, mais elle a quand même fini par tapoter mes fesses. Je ne comprenais pas cette définition de la femme africaine et la grande question que je me posais était toujours « Mais pourquoi sont-ils si obsédés par mon corps et ma sexualité ?» Et grâce à la demande des revues de Deux Mondes, j'ai fini par trouver quelques réponses et j'ai trouvé que le coupable, à mon avis, c'était la littérature et les arts coloniaux. Que je suis bête aussi, moi. Comment cela se fait que j'ai lu toute cette littérature sans me rendre compte que cela fut la seule source d'information sur l'Afrique pour beaucoup des Européens, sinon le monde entier. La première littérature sur l'Afrique fut écrite pour la plupart par les colonialistes du sexe masculin. Il fallait se justifier, donc les colonialistes étaient en Afrique pour civiliser les sauvages et l'Église pour les apporter le Seigneur. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que la plupart des hommes qui sont allés en Afrique étaient des aventuriers, en général célibataires, et ceux qui étaient mariés, les épousaient en Europe. Donc, pour se soulager, comme on disait, se soulager, n'est-ce pas, parce qu'on est en souffrance, ces hommes se rabattaient sur les femmes africaines, une proie facile, parce qu'il est un maître quand même. Donc, et on a dit des fois sur les animaux aussi, mais bon, je dis ça, je dis rien. Le gouvernement français fermait les yeux, mais il était compris qu'on ne ramenait pas ces indigènes, ces épouses indigènes et les abattards au pays. Dans l'Afrique anglophone, ou de où je viens, pour écarter les fléaux, le sexe entre noir et blanc fut tout simplement interdit. On l'appelait le péril noir. Donc, il ne fallait pas encourager. Donc, ça a été le grand de l'apartheid en Afrique du Sud, au Zimbabwe. C'était pour éviter ça. Je me suis alors remis à relire à cette littérature coloniale, mais avec un œil différent. Donc, au voyage au bout de la nuit de Céline, au cœur des ténèbres, Conrad, la femme en Afrique de Blixen, une femme pourtant, tantôt au Congo, léger, il est au trésor de Stevenson et j'en passe. Et j'ai compris que même dans les cas où l'écrivain dénonce de tels traitements des Africaines, l'image d'une Africaine membre d'un harem, lascive et sexuelle, perdure encore aujourd'hui en France. Comme si cela ne suffisait pas, les peintres de l'époque ont aussi propagé cette image de la croix avec sa femme d'Alger. Je ne sais pas si vous connaissez le tableau. Si vous ne connaissez pas, ça vaut le coup. Jacques Majorelle et ses beautés noires ou modèle-nous allonger une femme noire à ses côtés. Mais les deux femmes étaient noires, mais bon, l'autre était plus foncée. Ces ouvres sur le Maghreb de Delacroix et de Majorelle contrastent énormément avec ceux de Marguerite Delhomme et Lucie Lusturier, deux femmes françaises contemporaines de Majorelle, qui nous mènent à se demander si les hommes ne projetaient pas les fantasmes d'harem, car pendant que chez Marguerite Delhomme et Lucie Lusturier, les enfants y figuraient dans ces œuvres, dans les harems. Chez les hommes, il n'y avait pas d'enfants. C'était que des femmes assises dans des positions qui, bon, ça ne laissait pas beaucoup à l'imagination. Et malheureusement, c'est les ouvres des hommes qui ornent les musées et c'est la littérature qu'on a lue dans le monde entier. Donc, mais pourquoi cette littérature dans les musées? C'est tout simplement parce que les écrivains ou peintres femmes n'avaient pas le même accès à la publication. Donc, il n'y avait pas beaucoup de femmes écrivains européens. Et puis, dans les salons, on pouvait pas, les femmes ne pouvaient pas. On connaît tous l'histoire de Camille Claudel, qui est ses œuvres passées par Rodin. Et puis aussi, tout homme ou femme qui critiquait l'ordre établi avait du mal à se faire publier ou exposer. Il y a une dame qui s'appelle Denise Savignon qui s'est fait accuser de ne pas être solidaire avec la mère patrie. Donc bien sûr, elle condamnait ce qui se passait dans les colonies, mais elle ne pouvait publier nulle part parce que ce n'était pas l'image qu'on voulait donner. Mais bon, d'accord, mais pourquoi cette obsession de la sexualité de la femme africaine? Parce qu'on l'a prêté la réputation d'une homme vuteuse qui séduisait les pauvres hommes perdus dans la jungle. Parce qu'il fallait quand même trouver une explication pourquoi ces hommes blancs supérieurs allaient coucher avec les femmes noires. En plus, elle était censée être porteuse des maladies vénériennes que les hommes finissaient par passer à la gentille épouse chrétienne ici. Dans Out of Africa, on voit le baronet von Blixen repartir à se faire soigner des syphilis et rentrer en Europe pour se faire soigner. Et on nous fait comprendre que la maladie venait de la maîtresse africaine de son mari. Et donc, l'épouse colonialiste ici craignait aussi cette madone africaine qui séduisait son mari et puis qui lui donnait des maladies qu'il ramenait avec lui. Après, je me suis posé la question en me disant, bon, si moi aussi j'avais été alimentée par ces livres, mêmes images au musée, et c'est que moi aussi je n'aurais pas cru ces bêtises. Donc je commence à comprendre pourquoi il y avait cette image, parce qu'il n'y avait que ça comme littérature. Quand, après la mort de Sarah Bachman, la dite Vénus Hottentot, Georges Cuvier l'a disséqué et publié un rapport scientifique qui a beaucoup insisté sur ces mensurations de ces parties génitales, ça a beaucoup, beaucoup excité le monde occidental. Et on ne s'est pas trop posé la question pourquoi cette femme, on l'a ramenée ici. Parce que l'image de la femme africaine aux grosses fesses, ça perdure encore. Parce que la raison pourquoi on l'a ramenée ici, c'est que cette femme, elle était handicapée. Donc on l'a achetée, on l'a exhibée dans les foires. On disait, voilà une femme africaine. Il y a des gens qui venaient la regarder. Parce que, et c'était ça l'image de la femme africaine. Et puis après, on l'a disséquée, se servant pour dire, oh non, elle n'était pas très intelligente. Elle avait la même intelligence qu'un singe. Et, mais toutes les femmes africaines, on a resté avec cette image-là. Donc, et puis, ça a été publié comme scientifique. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que son corps a été exposé au musée d'hommes jusqu'à les années 70 en France. Donc, peut-être moi aussi, j'aurais eu cette image. Donc, à tous les écrivains, à tous les philosophes, à nous tous, il y a du travail sur la planche. À nous tous d'écrire et peut-être réécrire l'Afrique. Et nous, les femmes, nous n'avons plus d'excuses. Nos grandes sœurs, les Doris Lessing, Maria Maba, Ken Bugul, donc tu parlais, et les autres nous ont ouvert les portes. Et contrairement à Denis Sauvigneux et compagnie, nous sommes épaulés par une génération des hommes qui nous soutient. Allez, aux âmes, à nos stylos, à nos ordinateurs. Il faut comprendre, ou faire comprendre, que l'Africaine n'est pas toujours à la nounou ou la femme de ménage, et n'est pas toujours à la pauvre troisième épouse. Ses enfants n'ont pas de problème à l'école, et non, ses trois enfants n'ont pas six pères. Et pour conclure, arrêtez de la tutoyer, arrêtez de l'appeler ma blonde, ma gazelle ou autre sobriquet à la con. Et même si elle est célibataire, tout va bien. Elle ne cherche pas. Il se fait que ceci est sur son choix. Elle a choisi ça. Et oui, des fois, une Africaine est une écrivaine. Merci à tous.
Ben, je crois que Lucy Moussita, il faut revenir de temps en temps, hein, parce que avec une telle ovation, je vais perdre quand même une voix ici. Hein, donc voilà. Voilà, tout à fait. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que son intervention rentre un peu dans l'esprit de toutes les leçons que nous avons faites ici. Hein, c'est dans le but de combattre ces préjugés, dans le but un peu de réinstaurer un vrai dialogue, un vrai regard sur nos civilisations et que nous ne nous laissons pas emporter justement par ces préjugés. Hein? Les gazelles, ce sont des gazelles, ce n'est pas forcément ce qu'on pense. Donc je crois que ces expressions qui sont tirées justement de ce lexique, hein, la littérature, presque des expéditions africaines ou la littérature coloniale, sont parfois les derniers ingrédients qui peuvent nous aider à comprendre si les gens sont ouverts ou s'ils sont fermés, ou bien si tout le temps ils portent le voile d'une inconscience habitée par la nostalgie de ces temps passés. Cette nostalgie aussi me permet de vous présenter nos deux invités qui viennent d'arriver, hein, Dieudonné Nyangouna et Armand Gose, le Congo-Brazzaville et la Côte d'Ivoire, après qu'on a traversé le Zimbabwe, le Togo avec Sami Tchak. Vous voyez que c'est un panel panafricain. Hein. Le seul bis qu'il y a là, c'est qu'il y a deux Congolais ici, donc moi-même et Dieudonné Nyangouna, mais le modérateur ne compte jamais sur un panel, il est simplement celui qui relaie. Donc vous savez que le temps va nous être compté, mais on va essayer de faire le maximum pour qu'il y ait plus de tolérance que de frustration. J'avais déjà modifié l'ordre de votre arrivée. Donc, au pif, je me suis dit, est-ce que je commence par le dramaturge et écrivain ou l'artiste, photographe et écrivain? Les deux font les arts qui consistent aussi à jouer sur le corps. Certains les fixent par la photographie du côté de Gose, d'autres du côté de la scène. Pas la scène, le fleuve ou quoi là, hein, mais je parle de la scène dans la dramaturgie, bien sûr. Eh bien, je vais suivre ce qui était donné. On va, puisque la littérature, même dans ses préjugés, va plus du côté des rêves de Kong, de Bigger, de chez Armand Gose, pour lui, qui la littérature qui inscrit le regard même sur l'écrivain, n'exclut pas une prise en compte de l'histoire. C'est ce que donc il nous illustrera ici, si je retrouve
mon vrai papier. Voilà.
Alors, donc, Armand Gose, qui est romancier, biochimiste de formation, installé en France depuis 1999. J'ai tout pris depuis la DGSE, donc je sais tout de lui. Multidisciplinaire, c'est quelqu'un qui a été à la fois jardinier, il a fait vigile en passant par documentariste, cinéaste, hein, ce qui fera plaisir à mon frère Jean-Marie Thénault qui est dans la salle, qui me dit, mais vous oubliez toujours les cinéastes, il ne sait pas ce que je lui prévois en cachette. Donc, il faut toujours être photographe aussi, informaticien et beaucoup d'autres métiers qu'il a eu à faire. En 2005, il a coécrit avec Eliane Delatour le scénario du long métrage Après l'océan, produit par les films de cinéma, et a réalisé en 2006 le court métrage Quand Sankara, 3 points de suspension, par Eloka Productions et Canal+. Et en 2014, date fondamentale. C'est là que le grand public l'a connu en France avec un roman à succès. Pour un roman, premier roman, c'était vraiment dominé même la rentrée à cette époque. Ce roman s'appelle Debout payé, qui était paru aux éditions Nouvelle Attila et qui l'a donc fait découvrir au grand public. Son intervention ici, je fais comme dans le suspense, s'intitule Les rêves de Kong de Bigger. J'appelle donc mon ami Gose de la Côte d'Ivoire.